Parmi tous les enjeux auxquels on peut penser quand on évoque le déploiement des outils numériques en santé, il y a la sécurité de nos données, bien sûr, il y a l'interopérabilité, être sûr que les outils communiquent entre eux, et puis il y a l'adoption des bons outils par les usagers, que ce soit les patients ou les professionnels de santé. Un exemple, il existe des dizaines d'applications sur smartphone qui permettent aux personnes diabétiques de suivre l'évolution de leur glycémie. Si j'en choisis une pour remplacer mon carnet manuel, est-ce que je vais pouvoir échanger facilement les données avec mon médecin ? Est-ce que je vais pouvoir le faire de manière sécurisée ? Et si l'application fournit aussi des conseils, qui peut me garantir qu'ils sont sérieux ? Bref, comment savoir que c'est la bonne application pour le bon usage ? Eh bien, cet exemple sur le suivi de la glycémie, on pourrait le répliquer pour des tas de situations, tout simplement parce que les outils numériques sont de plus en plus nombreux et qu'ils couvrent aussi un champ de pathologie ou des étapes du parcours de soins de plus en plus large. Et dans ce contexte, guider les usages devient un véritable enjeu de santé publique. Eh bien, l'un des acteurs de santé publique qui souhaite se positionner sur cet enjeu, c'est la CNAM, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie. Cette année, la CNAM sera présente au Summer Camp de l'Université de la e-Santé, en compagnie de plusieurs autres branches de la Sécurité Sociale. Alors dans cet épisode du podcast de l'Université de la e-Santé, on est allé s'entretenir avec Laurie Sofiati, la responsable du tout nouveau département télésanté et innovation de la CNAM, pour qu'elle nous explique comment la CNAM va se positionner pour à la fois guider et promouvoir le déploiement du numérique en santé. Bonjour Laurie Sofiati.
Bonjour.
Merci de m'accueillir dans vos bureaux de la CNAM.
Bienvenue, nous sommes très heureux de vous accueillir.
Merci. On s'est trouvés malgré la distance, c'est des très très grands bureaux. Je voudrais commencer en prenant 5 minutes pour parler du département télésanté et innovation de la CNAM. Ça fait à peine 6 mois qu'il a été créé, que vous en avez pris la tête. Quel est son rôle? Et avant qu'il n'existe, comment est-ce que la CNAM agissait sur le numérique en santé?
Alors le département effectivement a été créé récemment, je suis arrivée à sa tête le 27 octobre 2022 et donc son rôle il est multiple, il a d'abord un rôle en interne justement de coordination de tous ces sujets du numérique en santé puisque donc la CNAM évidemment agissait déjà sur ces sujets avant la création du département, notamment par le tropisme de ces départements métiers qui en fait exercent tous à un moment donné des compétences et des actions dans le champ du numérique, que ce soit dans les produits de santé ou que ce soit dans la relation aux professionnels de santé. Donc on ne partait évidemment pas de rien, loin s'en faut, mais il y avait l'idée que pour que la CNAM puisse jouer complètement son rôle d'aiguilleur aussi du système de soins et puis son rôle de participation véritablement à la transformation du système de soins, il fallait qu'elle puisse se doter d'un département dédié qui puisse porter ces sujets à la fois de manière transversale en interne mais aussi en interface avec nos partenaires naturels, institutionnels que sont le ministère, la HAS, la BPI, mais aussi auprès des entrepreneurs, des porteurs de projets, des innovations numériques, mieux comprendre ce qu'ils font pour pouvoir effectivement évaluer, ce sera une des missions du département et on y reviendra, pour pouvoir aussi l'intégrer dans l'offre de soins à partir du moment où la preuve ou le bénéfice à la fois sur le plan médical ou médico-économique ou organisationnel a été prouvé. C'est véritablement le rôle de ce département que d'être moteur sur les usages et sur l'adoption des innovations numériques en santé.
Aiguiller, être moteur sur les usages. Est-ce que ça veut dire aiguiller des usages pour les rendre disponibles d'une certaine manière, à un certain endroit? Et en fait, je pense au catalogue d'applications de mon espace santé qui existe depuis maintenant aussi quelques mois. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est les aiguiller pour que ces solutions prennent la direction du catalogue d'applications?
Alors effectivement, mon espace santé, il y a différentes fonctions. Il y a le dossier médical, il y a la messagerie sécurisée, donc ce fameux store, ce catalogue d'applications qui a ouvert pour la première fois en novembre dernier et qui aujourd'hui, on a déjà référencé plus d'une vingtaine d'applications. Et donc effectivement, ce catalogue de services, il a vocation à référencer des applications sur un certain nombre de critères qui, en fait, sont évalués sur la base des référentiels de l'Agence du numérique en santé. Mmh. Et donc, ces applications, pour pouvoir être référencées dans MES, il faut qu'elles soient conformes au référentiel d'interopérabilité, puisque, évidemment, pour pousser les usages, il faut que tous ces outils puissent communiquer entre eux. Au référentiel de sécurité, puisqu'on traite, évidemment, la matière première, finalement, du numérique en santé, c'est la donnée de santé. et enfin des référentiels éthiques qui, là, aussi touchent à des questions plutôt d'accessibilité, de transparence. Et précisément sur ce rôle d'aiguillage, l'assurance maladie cherche à faire évoluer ce dernier référentiel pour l'enrichir de critères autour de l'usage, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a un référencement qui repose essentiellement sur une évaluation technique, qui est le préalable indispensable. Mmh. Mais on estime qu'aujourd'hui, voilà, on est dans, entre guillemets, dans une forme de nouveau temps de la maturité, c'est-à-dire qu'on est, on est passé d'une doctrine numérique en santé qui était très centrée sur l'outil, et c'était normal parce qu'on avait un retard technique et technologique en France. Et aujourd'hui, évidemment, on essaye de passer à l'étape d'après. Et donc, on compte vraiment exploiter au maximum le potentiel de MES pour réaliser cette nouvelle étape, pour que effectivement aujourd'hui, ce référencement, il atteste non seulement d'une qualité technique et d'une sécurité, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, mais aussi d'une qualité à la fois en termes de services rendus, à la fois en termes de valeur médicale ou d'amélioration du parcours de soins ou d'amélioration de la coordination entre les professionnels de santé. Donc vraiment essayer de muscler cette partie-là du référentiel pour pouvoir là aussi mettre en avant des applications qui sont conformes aux usages que nous, on souhaite se voir développer en matière de numérique en santé.
Ce qui veut dire, pour être sûr de bien comprendre, que aujourd'hui, les applications qui se trouvent disponibles via mon espace santé, il n'y a pas d'évaluation de leur qualité pour le soin.
Non, parce que cette évaluation de leur qualité pour le soin ou sur des questions d'organisation des soins, elle est assez difficile à mettre en œuvre en fait aujourd'hui sur toutes ces applications numériques parce qu'en fait, on a une diversité d'outils qui remplissent une diversité de fonctionnalités. Et donc, ça suppose d'avoir une évaluation qui soit un peu spécifique en fonction des grands champs et des grands secteurs. Et donc, c'est cette étape d'après vers laquelle on s'achemine qui est de prendre des référentiels par grand champ, par grand couloir, donc la télésurveillance, la téléconsultation, la téléexpertise, avec l'idée qu'on ne peut pas avoir une évaluation commune ou universelle s'agissant de l'usage. C'est-à-dire que là où sur la partie technique, on peut avoir une évaluation commune en matière de sécurité, d'interop, on voit bien que sur la partie usage, en fonction des fonctionnalités, des finalités poursuivies par les applications, on est face un peu à une aporie qui est de dire « mais on ne pourrait pas avoir des critères communs à tous ». Aujourd'hui, il y a un vrai enjeu d'évaluation sur les usages parce que vous allez sur n'importe quel store d'applications de téléphonie mobile, vous avez accès à entre 200 et 300 000 applications de santé. On voit la commercialisation des objets connectés de santé qui se développent dans les magasins. Ouais. Et donc, il faut qu'on puisse quand même un peu orienter à la fois les patients et les professionnels de santé. Donc ça prend du temps, en fait, à construire. Ça suppose aussi d'avoir laissé quand même un petit peu les usages se déployer en amont pour pouvoir baser cette évaluation sur des cas d'usage concrets et pas uniquement sur un prérequis théorique.
Quel est le risque si on laisse se morceler des usages? Et en fait, qu'on laisse faire un petit peu l'utilisateur et qu'on lui laisse trouver son chemin lui-même.
Alors, c'est évident qu'il y a un enjeu d'équilibre, c'est-à-dire qu'il faut quand même se laisser se développer les usages pour qu'on puisse les évaluer concrètement. On ne va pas faire une évaluation théorique hors sol, ça n'aurait pas de sens. Pour autant, les risques, ils sont à mon sens de deux ordres. D'abord, auprès des patients qui, parfois, ne savent pas s'orienter, ne savent pas, en fait, n'ont pas les clés, et c'est bien normal pour savoir, par exemple, ce qui est fait de leurs données de santé par telle ou telle application quand ils renseignent des données de santé. Mmh. Donc là, ça pose des enjeux de maîtrise des données, mais aussi plus stratégiquement des enjeux de souveraineté sur la maîtrise des données personnelles. Toujours du côté patient, c'est le risque d'avoir, encore une fois, un mésusage lié à, par exemple, un objet connecté qu'on utilise mal et qui peut, pour le coup, au contraire, faire qu'on croit qu'on a les bonnes informations au bon moment en termes de système d'alerte alors qu'on ne les a pas. Ouais. Et donc, peut-être être sous-efficient en matière de diagnostic ou d'alerte auprès du médecin parce que le patient se dit « Ah, mais je suis suivi, j'ai mon application et donc, en fait, je ne m'engage pas dans le parcours de soins traditionnel parce que je pense que l'application que j'ai téléchargée fait fonction de parcours de soins à la place d'eux. » Et donc ça, à mon sens, c'est du côté patient, c'est quand même des vrais enjeux. Et dans un second temps, côté professionnel de santé, il y a le risque d'être démarché par tout un tas d'éditeurs, par ailleurs très bien intentionnés, mais dont en fait les solutions, à contrario de leur objectif souvent qui est de fluidification des relations entre les professionnels de santé, vont en fait complexifier la relation, notamment parce que les solutions ne sont pas interopérables. Donc on le voit, quand les professionnels ne peuvent pas communiquer entre eux, il faut doubler par du papier, donc le numérique leur fait perdre énormément de temps. Et donc là, en fait, on est clairement sur un usage contre-productif. Ouais. Donc les risques, voilà, ils sont de plusieurs ordres, mais avec vraiment une attention particulière sur la maîtrise des données de santé, le risque de mésusage et de sortie du parcours de soins par effet de translation, entre guillemets, entre l'application et le fait que le patient aurait pu s'engager dans un parcours de soins auprès des professionnels de santé, et côté professionnel de santé, le risque que ça désorganise plus que ça ne fluidifie.
Ouais. Est-ce que pour la première partie, celle sur les risques liés aux usagers particuliers, enfin patients, est-ce que les professionnels de santé, les médecins en particulier, ont un rôle à jouer pour réaiguiller vers des outils, des solutions et des usages qui font partie du parcours balisé? Est-ce qu'on peut attendre ça d'eux?
Alors oui, à condition, encore une fois, qu'ils aient la bonne information au bon moment. Donc ça fait aussi partie de tous ces enjeux de déploiement opérationnel des outils du numérique en santé. C'est-à-dire que le professionnel de santé, évidemment, peut soit renseigner son patient sur une solution qui lui semble adéquate par rapport à son profil pathologique, ou au contraire, l'alerter si jamais le patient lui dit « mais voilà, j'utilise ça, je trouve que c'est très bien ». Mais le professionnel de santé, c'est évident que seul dans son coin, il va avoir du mal à mener une évaluation de l'outil qui est utilisé. Et donc là, c'est aussi pour ça qu'on veut mener cette évaluation côté assurance maladie. C'est aussi pour pouvoir sécuriser les professionnels de santé quand ils sont face à ces nouveaux outils qui se développent et qui puissent se faire un avis plus rapidement.
Ouais. Le nombre d'outils est florissant. Enfin, ça bouillonne de partout, de solutions. Il y en a encore sans doute beaucoup qui sont en gestation, qu'on ne voit pas. Est-ce qu'à l'avenir, ça veut quand même dire moins d'outils, mais des usages plus concentrés sur un plus petit nombre d'outils et de solutions? Plus d'usages, mais moins de solutions?
Évidemment, il y a évidemment aujourd'hui un enjeu de structuration du marché qui est encore en phase de forte croissance et qui n'a pas trouvé sa maturité. Mais c'est aussi, c'est aussi le processus naturel de l'innovation. Il faut qu'il y ait beaucoup de projets qui soient développés pour que finalement, seuls ceux qui répondent à de véritables besoins puissent être adoptés, prospérer, éventuellement être pris en charge par l'assurance maladie. Mmh. Donc j'ai envie de dire oui, mais parce que c'est entre guillemets le processus normal de toute innovation, c'est-à-dire que on a forcément beaucoup d'appelés pour peu d'élus. Quand on fait de l'innovation numérique en santé, c'est certes de l'innovation numérique, mais dans un champ qui est extrêmement régulé, parce qu'encore une fois, on touche à la santé, à l'intégrité de la personne, à sa dignité, à son parcours de soins. Et donc, il faut être bien sûr que les applications ou les outils qu'on développe répondent à des enjeux de santé publique, répondent aujourd'hui aux besoins des parcours de soins, répondent aux besoins des professionnels de santé. Et donc, évidemment que les usages vont se concentrer, et les outils sans doute aussi. Mais pour arriver à cette solution, entre guillemets, à cet optimum, ça suppose effectivement qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'innovation en amont. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'État en France soutient l'innovation numérique en santé de manière très volontaire, voire volontariste. Il y a beaucoup de crédits qui sont engagés. La stratégie nationale d'accélération du numérique en santé qui est portée par la délégation du numérique en santé, c'est quand même 718 millions d'euros. Le Ségur de la santé pour assurer l'interopérabilité entre tous les logiciels de professionnels et la compatibilité au DMP, c'est 2 milliards d'euros. Donc voilà, il y a toujours ces deux volets d'action de la puissance publique, c'est-à-dire qu'il faut soutenir l'innovation parce qu'on sait que c'est un véritable levier de transformation de notre système de soins. Et donc l'innovation, pour ça, il faut qu'elle soit un peu, il faut qu'elle soit pléthorique, il faut qu'elle aille dans tous les sens avant de trouver sa bonne direction. Et le deuxième levier d'action, c'est la régulation par l'évaluation. Donc on essaye vraiment d'avancer sur ces deux jambes, un soutien très fort et puis de la régulation ensuite.
Est-ce que favoriser les usages, encourager les usages, ça veut aussi dire identifier les besoins et mettre les deux en relation?
Oui, effectivement, aujourd'hui, c'est un véritable enjeu pour l'assurance maladie qui est de dire il faut que les innovations répondent à nos priorités de santé publique, répondent à nos priorités d'action, s'adressent aux maladies chroniques, s'adressent au sujet de la santé mentale, s'adressent au sujet du neurodéveloppement des enfants, qui sont aujourd'hui trois champs d'action prioritaires de l'assurance maladie. Donc ça, c'est très important, effectivement, de mettre en relation le besoin et l'offre qui est fait d'innovation. Donc, c'est aussi à ça que le département travaille, en fait, hein, en faisant ce rôle d'interface, qui est aussi de sensibiliser les acteurs en disant, nous, nos priorités sont là. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on voudrait, c'est créer le meilleur appariement possible, entre guillemets, entre vos intérêts, qu'on comprend qu'ils sont légitimes, de développement, de commercialisation, et les nôtres, qui sont ceux de pouvoir doter la puissance publique des moyens d'action efficaces pour remplir ses missions sur les champs prioritaires qu'elle a identifiés en matière de santé publique.
À quel moment est-ce qu'on peut attendre des résultats ou un premier bilan ? Comme on l'a dit au début, hein, le département est tout récent, donc c'est très tôt. Mais est-ce qu'il y a déjà une espèce d'horizon ou de calendrier ?
Alors sur tout ce qui est, par exemple, l'évolution des critères dans le référencement de Mon Espace Santé, ça, c'est quelque chose qui va être mis en place d'ici la fin de l'année. Donc ça, c'est, je pense que ce sera déjà une première pierre importante dans cet édifice plus global d'évaluation des innovations numériques en santé. On va avoir quand même, sur la promotion des usages, on a quand même deux grosses actualités auxquelles l'assurance maladie prend part. C'est donc la généralisation de la télésurveillance, où là, effectivement, on va étendre le champ des activités de télésurveillance qui peuvent être prises en charge, puisqu'on passe d'un cadre expérimental dans le cadre du programme Étape sur 5 pathologies à toutes, et aujourd'hui qui sont ouvertes à toutes les pathologies. Donc ça, ça va avoir vraiment un effet de transformation important, on y croit beaucoup, notamment sur l'insuffisance cardiaque, qui est aussi un des sujets prioritaires pour l'assurance maladie. Et ensuite, on va avoir tout ce qui va être du côté de la téléconsultation avec la mise en place de l'agrément des sociétés de téléconsultation pour qu'elles puissent facturer à l'assurance maladie, là aussi avec l'espoir de normaliser cet usage, mais aussi de pouvoir accompagner son développement dans le cadre d'un meilleur accès aux soins. Et ensuite, effectivement, à terme, l'assurance maladie. Mais là, j'aurais effectivement un peu de mal à donner un horizon temporel très défini. Il faudra qu'effectivement, elle puisse se doter d'un cadre d'évaluation ad hoc pour ces innovations numériques, secteur par secteur.
Merci beaucoup,
Laurence. Merci.
La discussion sur les enjeux du déploiement du numérique en santé continue à l'Université de l'AI-Santé, notamment avec des tables rondes auxquelles participera l'assurance maladie. Le programme est disponible sur le site de l'Université de l'AI-Santé. Et d'ici là, vous pouvez retrouver les autres épisodes du podcast de l'Université de l'AI-Santé sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. À bientôt !